Bonsoir. Situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola au Nord Kivu. Le communiqué du ministère de la Santé publique publié dimanche rapporte que 211 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, 55 cas de guérison et 100 décès parmi les cas confirmés. Par ailleurs, plus de 16 000 personnes ont déjà été vaccinées depuis le début de cette opération. Quelle analyse faire de l'évolution de cette épidémie? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Dr Batin Joloko. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de la lutte contre la maladie à virus Ebola au ministère de la Santé publique. Papi Kasereka, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes membre de la coordination de la société civile de Beni au Nord Kivu et aussi coordonnateur du bureau d'études et d'accompagnement des relations internationales en RDC, BRIC en sigle. Adela Robouloquès, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste en communication. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Aujourd'hui, comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri? Pour en parler, nous avons en direct de Beni Martial Papi Mukeba, l'un de nos correspondants. Bonsoir Martial, que pouvez-vous dire par rapport à cette situation?
Bonsoir Ale Irong, il faut d'abord préciser que ça fait pratiquement des mois et une semaine depuis que le gouvernement, à travers les ministères de la Santé, a annoncé l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu et particulièrement dans la région de Beni. Et depuis, le gouvernement, appuyé par ses partenaires habituels, notamment l'OMS, la MONUSCO et d'autres organisations, ont lancé la riposte contre cette épidémie. À ce jour, le ministère a annoncé un total de 216 cas de fièvre hémorragique, dont 181 confirmés et 35 probables. Sur les 181 confirmés, 104 sont décédés et 57 sont guéris. Les autres sont hospitalisés dans les différents centres de traitement d'Ebola, CTE, précise le ministère de la Santé. Mais il faut dire que ces deux dernières semaines, il a été observé un accroissement des cas positifs dans la ville de Beni, considéré désormais comme un nouveau foyer de la maladie à virus Ebola.
Qu'est-ce qui explique cette situation selon vous?
La résistance de certains habitants qui ne veulent pas coopérer, les contraintes sécuritaires avec les attaques récurrentes des présumés ADF dans la ville et les territoires de Beni qui occasionnent les déplacements des populations sont, entre autres, problèmes qui ne facilitent pas le travail de l'équipe de la riposte. Aussi, il faut préciser que dans sa stratégie de sensibilisation qui implique l'approche communautaire, les ministères de la Santé et ses partenaires ont doté 30 chefs de quartier des 4 communes de la ville de Beni de téléphones cellulaires. L'objectif est de faciliter le travail d'alerte si des cas suspects sont localisés dans les quartiers.
Merci Martial Papi Mukeba et bonne soirée à Beni.
Merci à vous, Alain Irung.
Merci une fois de plus Martial Papi Mukeba. Docteur Batin Joloko, vous êtes directeur général de la lutte contre la maladie à virus Ebola au ministère de la Santé publique. Docteur, dites-nous au 18 octobre, à ce jour, quelle est la situation de la maladie à virus Ebola?
Merci Alain. Avant de donner ce bilan, nous tenons une fois de plus de partager nos compassions à toutes les familles qui ont perdu la leur et toutes les communautés qui ont été touchées du fait de cette épidémie dans cette région de longtemps meurtrie que ça fait une épreuve en plus aux attaques et aux tueries dans la région. À côté de cela, nous tenons aussi à remercier effectivement, comme Marcel venait de le dire, tous les partenaires du ministère de la Santé et nous saluons le leadership de la partie nationale à travers le ministre de son Excellence Oli Ilunga qui trouve toujours du temps de venir réconforter les troupes ici à Beni, à Nitouri et à Mangina et à Butembo pour garder le moral. En fait, la partie morale, elle est la plus importante dans cette épidémie, puisque nous sommes confrontés, nous aussi et nos équipes, à ces épreuves de sécurité. Juste pour l'histoire, c'est la première fois à travers le monde qu'une épidémie d'un virus Ebola survient dans un contexte de crise et un contexte de conflit. Ce qui fait que tout le monde est partenaire étranger. Et nous, les Congolais, nous apprenons à travailler dans ce contexte très volatile, très dynamique et très changeant tous les jours. Alors, à ce jour, la situation se présente, effectivement, comme Marcel l'a dit, mais juste une question d'actualiser quelques chiffres. Nous sommes à 220 cas, au moins les chiffres d'hier, et nous avons réussi actuellement à vacciner plus de 18 000 personnes. Et vous comprenez que avec ça, les nombres sont suffisamment éloquents. Nous avons mis sous traitement contre le virus Ebola plus de 70 personnes. Et aujourd'hui, nous avons un des taux de létalité les plus faibles des épidémies. Et nous pensons que c'est lié, entre autres, aussi à ces thérapeutiques. Le taux de létalité de plus de 24 heures en état hospitalier est autour de 34-35%. Par rapport aux épidémies antérieures, c'est extrêmement faible. Et voilà un peu l'écrou. Mais alors, dès la dynamique de l'épidémie, l'épidémie avait commencé effectivement à Mangina, dans la lisière de la province de l'Ituri, et la cité de Makeke avait été touchée. Mais voilà qu'aujourd'hui, Makeke, Mangina, Oicha, Komanda, Chomia, c'est des foyers que nous avons éteints avec les équipes qui sont ici, tant du ministère de la Santé que des équipes des partenaires. Et voilà que
Docteur,
nous avons maintenant un défi le plus grand. Oui.
Mais comment vous expliquez alors le fait que l'épicentre de la maladie se soit déplacé de tous ces territoires, ces villes que vous citez jusqu'à Beni?
Non, il faut dire que depuis que l'État congolais nous a déployé ou a déployé les équipes ici, il y avait déjà des cas, mais des cas importés de Mangina sur Beni. C'est-à-dire, au fait, il n'y avait pas encore de contamination interne à Beni, dès le début. Mais alors, il faut dire que aujourd'hui, nous pouvons vraiment dire que nous n'avons pas été surpris par la situation qui vient d'arriver à Beni, puisque c'était prévisible, puisque c'est à Beni que nous avons connu les plus de résistances, les plus farouches aux interventions que nous sommes en train de mener. À côté de cela, c'est aussi ici que nous avons fait face aux contraintes de sécurité. Partout ailleurs, là, il y en avait, mais c'était gérable. Voilà un peu les raisons qui font qu'aujourd'hui, l'épidémie est plus active à Beni que partout ailleurs.
Et donc, docteur, si on doit retenir que on dirait que parmi les obstacles majeurs, c'est notamment les résistances dont vous parlez et l'insécurité.
Il n'y en a pas deux. C'est pour cela que je venais de vous faire voir que les succès que nous avons engrangés dans les autres localités, c'est le travail de ces mêmes équipes que nous avons maintenant déployées sur Beni. À la seule différence, c'est que c'est Beni où il y a tous ces paramètres qui ne permettent pas aux équipes de se mouvoir tel que nous planifions et tel que les stratégies sont connues. Et de même, plus d'une fois, nous avons rencontré des personnes de nos habitants et les citoyens de la cité et qui vous disent, nous, on a hébergé les gens hier et aujourd'hui, vous venez nous demander d'adhérer à la réponse. Dites-nous, qu'est-ce qui est prioritaire? Effectivement, cette population qui est dans ces dilemmes tous les jours adhère à la réponse aujourd'hui et le lendemain, s'il y a un autre événement, ça change tout et vous reprenez à zéro. Ce qui fait que nos collègues de communication sont en train de refaire quasi chaque jour les communications pour obtenir tant soit peu un engagement suffisant de la communauté en faveur des actions de la réponse contre cette épidémie qui s'est vite plus tard.
Merci docteur Batenjoloko, je reviens à vous tout à l'heure. Papi Kasereka, vous êtes membre de la coordination de la société civile de Beni au Nord Kivu et également coordonnateur du bureau d'études et d'accompagnement des relations internationales en RDC. Vous qui êtes dans la population, comment vous vivez l'évolution de la maladie à virus Ebola? Aujourd'hui, vous venez de suivre docteur Batenjoloko qui pense que les paramètres sont en train de changer sur terrain.
Merci beaucoup Alain. Je tiens d'abord à saluer le coordinateur mais aussi l'ensemble de vos auditeurs. Je voudrais aussi saluer le courage et la détermination de l'équipe de la riposte sur la coordination du docteur Batenjoloko. Toutefois, je pense que par rapport à la situation, les statistiques qui sont évoquées par le ministère de la Santé là sont très éloquentes. Et ça nous donne une situation réelle de la situation. Et pour aller très clair de, en fait, pour aller clairement dans le vif du sujet, je voudrais qu'on parle du commencement. Vous savez, les gens de la Riposte ont débarqué ici et ils ont commis, à mon sens, un certain nombre d'erreurs. Et des erreurs que moi je considère, et à notre niveau, nous on considère ça des erreurs aux conséquences incalculables. Et c'est le reflet en fait de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'à bien aujourd'hui, la situation elle est complexe. Nous avons du mal à contrôler notamment les cas de contact et qu'il y a aussi des problématiques, notamment des gens qui essaient de fuir avec le malade et tout le reste. Donc je vais vous détailler un certain nombre d'erreurs. Donc il y a eu des erreurs au niveau des communications, au niveau des sensibilisations, au niveau des approches sociologiques et anthropologiques de la question, au niveau d'intégration à temps, dès le début, des leaders communautaires dans ces réponses-là, mais aussi au niveau de la gestion d'alerte, au niveau aussi de la gestion des cas de décès, parce que les équipes de réponse souvent arrivaient en retard. Ouais. Quand on vous appelle le matin, ils débarquent finalement vers 15h, alors que dans les décès communautaires, quelqu'un, en fait, il a passé toute la journée là. C'était pas normal. Donc, ces erreurs-là, on fait de sorte qu'il y a ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Du côté aussi de la coordination société civique, il y a aussi des émotions, notamment, en fait, ceux qui ont décidé que ça soit à notre niveau, 5 jours-là, où on ne fait absolument rien. Donc, les équipes de l'Iposte ont eu aussi du mal à suivre le cas de contact. Parce que le problème avec Ebola, c'est compliqué. Quand on ne fait pas les choses correctement et les conséquences sont souvent incalculables. Il y a aussi des erreurs pour ce qui concerne les vaccins. Aujourd'hui, le problème des vaccins, ça continue parce que parfois les véritables contacts ne sont pas vaccinés. Quelqu'un, c'est d'autres gens qui débarquent d'autres communes qui se font vacciner. Ça, on ne comprend absolument rien. Puis il y a des gens qui passent des journées sous le soleil et ne sont pas vaccinés. Ça, c'est le problème. Est-ce que c'est des vaccinateurs qui manquent? Nous ne savons pas. Est-ce qu'ils manquent des vaccinateurs? Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être fait tout de suite. Et les équipes qui doivent être gérées tout de suite par rapport aux équipes d'entraînement d'une sécurisée là. C'est ça qui manque. Ce qu'il est important d'augmenter le nombre des gens qui doivent être dignement et de manière sécurisée les gens, si c'est nécessaire aujourd'hui, parce que là aussi il y a des problèmes. Les gens ne peuvent pas attendre toute la journée et les gens qui doivent venir vacciner, ils vont débarquer finalement à 16h alors qu'ils ont attendu toute la journée. Ça, c'est des erreurs. Et la conséquence de ces erreurs-là, du côté de la réponse, c'est ce que nous vivons aujourd'hui là. Vous avez, par exemple, les gens de Bénin ont fini par commencer à attaquer l'équipe de la Riposte. C'est quand ils ont été attaqués qu'ils ont réagi. Ils ont dit non, on intègre les leaders communautaires dans cette Riposte. Parce qu'il ne faut pas que les gens qui doivent communiquer aux gens de Bénin débarquent du Cameroun ou du Sénégal ou du Kinshasa. Moi, c'est parce que c'est incompréhensible là-dessus.
Alors, Papi Kassereka.
Ils sont venus ici avec le spot sur le terre.
Papi Kassereka.
Les gens d'ici parlent Swahili.
Papi Kassereka.
Ouais, ça.
Papi Kassereka, est-ce que vous me suivez?
Oui, je vous suis.
Voilà, vous évoquez des problèmes d'intégration des leaders locaux, communautaires, qui ont débouché sur des problèmes de communication. Quel type de communication ou de sensibilisation a été menée sur terrain? Quel était le message? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés réfractaires.
Donc, quand ils sont arrivés, en fait, ils sont venus avec des messages, je pense qu'ils n'étaient pas prêts ou quoi. En fait, c'était des messages en lingala, essentiellement. Vous comprenez? Les gens de Bénin ne parlent pas lingala. Les gens de Bénin parlent kinan, ne parlent swahili. Ça, c'est un problème. Vous comprenez? Et, en fait, ce problème de barrière de communication, là, on fait de sorte qu'à Bénin, ici, c'est un milieu spécifique. C'est pas comme ils ont géré Manguina. Les gens de Bénin, ici, ont le problème des rumeurs. Ils ont fini par leur dire, bon, écoutez, vous coupez vous enterrez les gens, vous voulez couper des parties génitales, tout ça. Donc, à chaque fois que les gens de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, là, et souvent, les équipes de Riposte sont en retard pour réagir, parce que la Riposte, là, ne veut pas dire seulement contre la maladie. Il faut être sur tous les terrains, sociologiques, anthropologiques, rumeurs et tout ça. C'est de toute façon, là, qu'on peut avec la maladie. Et elles sont toujours en retard, que ce soit pour enterrer, pour communiquer et tout ça. Ça pose un problème.
Alors, vous avez évoqué un autre problème du côté de la coordination de la société civile de Bénin, avec ces 5 jours de ville morte qui avaient été décrétés sur la ville, et vous avez qualifié cela d'une réaction émotionnelle, et donc cela a aussi fortement perturbé la Riposte.
Absolument, c'est comme ça que je suis en train de dire, on fait la réponse, c'est surtout les terrains, ça aussi a perturbé, je suis conscient, j'en parle comme membre de la coordination. Mais aussi, les gens ont fait la réponse, ont commis des erreurs, et continuent de se faire commettre. Et ces erreurs-là, à mon sens, c'est très grave. Nous continuons à les payer jusqu'aujourd'hui. Et donc, si vous observez aujourd'hui là, non seulement qu'ils ont été, après avoir été cassés, qu'ils ont intégré, en fait, le leader communautaire dans la réponse. Il en reste aussi pour ces conseils. Il y a le travail de sensibilisation qui doit être fait. Et ça, c'est un travail crucial. Il faudra augmenter le nombre de vaccinateurs parce qu'il faut que l'argent des dollars soit bénéficié. Il ne faut qu'on ne doit pas rester dans des comptes bancaires.
Merci.
Alors qu'il y a des urgences.
Merci Papi Kasereka, je reviens à vous. Tout à l'heure, Adela Robouloquest, vous êtes spécialiste en communication. Vous avez suivi Dr Batenjoloko et Papi Kasereka. Pour vous, on sent qu'il y a que la communication pose véritablement problème dans cette situation. Quelle est votre analyse?
Merci bien Alain Hiroung. Je voudrais saluer en même temps tous ceux qui me suivent à partir du Grand Nord et également de l'ensemble de la République démocratique du Congo et en dehors. Je voudrais dire tout de suite qu'effectivement, on peut constater que lorsque on lutte contre une maladie comme la maladie à virus Ebola, il y a deux grands piliers. Il y a le côté thérapeutique, ça veut dire les soins, mais il y a également le côté communication. Et si je regarde où je suis, l'analyse qui est faite par ceux qui vivent cette situation sur le terrain, que ce soit le docteur Batté ou que ce soit monsieur Papi Kasereka, on se rend compte que le côté thérapeutique a été pris en charge plus ou moins correctement. Ça veut dire que tout de suite, le gouvernement a réagi, les partenaires ont réagi, on a installé les centres de traitement ou d'isolement de ceux qui présentaient déjà des signes, n'est-ce pas? La vaccination a également été lancée, mais on constate que les problèmes se situent plutôt du côté de la communication. Et cela pourrait s'expliquer par deux, trois grandes raisons. La première raison, c'est que la région dans laquelle s'est décrétée, s'est déclenchée cette nouvelle épidémie, n'est-ce pas, cette nouvelle vague de l'épidémie à virus Ebola, est une région particulière. C'est une région qui vit déjà une situation instable sur le plan sécuritaire. Et donc, ça va pas être comme à l'Équateur où on est dans un milieu presque fermé. Dès que l'on a cerné à peu près où se trouve l'épicentre de la maladie, on a déployé les équipes. La communication se fait dans un milieu presque qui n'a pas de contact avec d'autres milieux et on réussit facilement à pouvoir réduire le nombre de personnes qui sont en contact avec les personnes qui accusent déjà des signes de maladie. Là-bas, nous sommes dans une région d'abord où le mouvement des populations est extrêmement important. C'est des régions frontalières avec d'autres pays. C'est des régions où le commerce, le flux, le trafic est très important. Mais c'est également une région où les rumeurs sont extrêmement importantes. Mettez-vous en tête, Alain Hiroung, que cette région, c'est une région où les gens sont politiquement actifs. Soyons clairs. Et donc, les gens croient à ce que leur disent parfois des leaders, des gens qu'ils considèrent comme ayant une certaine notoriété. Lorsque ces gens-là disent que, par exemple, cette maladie est une maladie d'importation et qu'il n'y a pas une riposte sur le plan de la communication proportionnelle à ce type de rumeurs, effectivement, cela pose problème. Et M. Kasereka l'a relevé en disant que l'équipe qui est arrivée a semblé balbutier au départ, parce que l'équipe qui est arrivée, effectivement, n'a pas pu intégrer des éléments qui sont propres à cette région. On n'a jamais rencontré une épidémie qui se passe dans ce type de situation.
Adapter le message au contexte.
Adapter le message et les stratégies au contexte. Parce que le message, lorsqu'on fait la communication, en ce qui concerne la communication pour la santé, la cible ne peut pas être la même. Il y a plusieurs cibles. Les prestataires, c'est une cible parce que les prestataires sont au devant de la scène. Et parmi les gens qui contactent la maladie en premier lieu, souvent, ce sont les prestataires. Parce qu'ils ne se rendent pas compte au début qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la maladie à virus Ebola. Ils soignent des personnes qui présentent certains signes jusqu'à ce que le laboratoire puisse confirmer qu'il s'agit de la maladie à virus Ebola. Et ils sont sur le terrain. Et donc, c'est l'une des cibles qui est une cible prioritaire parmi les d'autres cibles. Quand on parle de cibles en communication pour la santé, il y en a plusieurs, il y a plusieurs strates. et on ne peut pas avoir le même message pour toutes les cibles. Et donc, à chacune des cibles, il faut un type de message particulier, mais ce message doit être contextualisé. Parce que la culture des Béni n'est certainement pas la culture des Tchomia.
Et donc, on peut considérer que Papi Kassereka a raison quand il parle d'erreur, par exemple, par le fait qu'on n'est pas associé directement les leaders communautaires à cette sensibilisation.
Moi, je ne parlerai pas d'erreur comme communicologue. J'ai dit que l'approche qui a été utilisée au début n'était pas celle qui devait être adaptée à la situation. Je dis que cela s'explique parce que c'est la première fois que ces équipes rencontraient ce type de situation.
Une situation atypique,
je dirais même asymétrique, puisque dans ce territoire-là, l'armée mène une guerre asymétrique. Il faudrait qu'il y ait aussi une riposte asymétrique, c'est-à-dire en tenant compte du fait que c'est pas une riposte qui se fait de manière comme ça se fait ailleurs, quoi, où on sait qu'on maîtrise tous les paramètres. Et donc là, ces paramètres-là, on ne pouvait pas les intégrer au départ, c'est sûr, parce qu'on ne les connaissait pas. Et puis, on ne pouvait pas laisser cette communication non plus à ceux qui étaient sur le terrain, parce qu'ils ne connaissent pas exactement la nature d'Ebola. Ebola a une nature très, 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 j'allais dire, une nature très dangereuse. Les gens sur le terrain, à Beni, n'ayant jamais vécu une épidémie d'Ebola, ils ne sauraient pas ce que c'est Ebola. Effectivement, il fallait que les équipes de spécialistes arrivent. Maintenant, c'est maintenant que l'on comprend que c'est une riposte asymétrique et donc il faut adapter la méthode à la situation des terrains. Et je suis convaincu, moi, que si l'on met les deux mamelles, les deux piliers, ça veut dire le côté thérapeutique et le côté communication, si ça s'adapte au milieu, je suis convaincu que de plus en plus, on va récolter également quelques succès du côté de la communication.
Merci Adela Roboulokwes. Docteur Baté Njoloko, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Nord Kivu.
Joachim Kampal est casse depuis le 8 à Manteleo. Je veux dire qu'à propos de l'Ebola, l'Ebola c'est une maladie dangereuse et contagieuse. Mais la manière dont l'équipe de riposte se sert pour guérir ou stopper cette maladie n'est pas vraiment appropriée. Pourquoi je veux dire cela? Puisque on recrute des gens, ceux qui sont transportés pour aller au centre de traitement, sont recrutés selon la fièvre. Lorsqu'il y a la fièvre qui est vraiment la plus forte cette fièvre, on est directement recruté pour aller subir ou aller faire le traitement. Maintenant, les camions, l'ambulance là, qui a le but d'évacuer les malades, ça évacue et les malades et la personne suspectée ayant déjà la fièvre, elle est suspectée et maintenant elle est conduite à l'hôpital ou au centre de traitement de l'Ebola pour la guérison. J'aimerais savoir, selon mon constat, ce camion-là peut servir d'une meilleure, vraiment c'est une meilleure propagatrice de cette maladie épidémiologique.
Docteur Batenjoloko, j'ajoute cette réaction de Franck Tamboué Chaco qui nous écrit de la ville de Beni, qui dit comment expliquer cette vaccination sélective et pourtant les partenaires du gouvernement mobilisent des moyens financiers énormes pour la riposte, mais sur terrain, l'épidémie est encore loin d'être maîtrisée. Docteur, cette émission est pédagogique, vous le savez. Quelles sont vos réponses?
Oui, monsieur Alain, c'est vrai que votre émission elle est vraiment éducative. Et nous la voulons bien aussi dans ce contexte. Et nous pensons que c'est le moment de le dire que vous avez beaucoup aidé la population d'ici, et y compris avec les émissions que Radio Capi a organisées sur place. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec le collègue qui a dit qu'il n'y a pas eu d'erreur. Erreur, ça signifie faire ce qui ne devait pas être fait. Nous avons été confrontés effectivement à un problème de démarrage de toute épidémie, même à l'Équateur. Quand nous débarquons, vous n'avez pas la logistique les mêmes jours, vous n'avez pas tous les effectifs de staff les mêmes jours, mais vous devez commencer la riposte. Et c'est là que nous sommes d'accord avec les collègues qui a dit qu'il y avait des retards dans les entraînements. Et c'est vrai que nous avons connu des retards dans les entraînements, mais ces retards-là étaient causés essentiellement par ce contexte de démarrage. Maintenant, à dire qu'on n'a pas intégré les leaders communautaires et autres, il y a à redire là-dessus. Puisque les résultats que nous avons eus à Manguina, qui était extrêmement chaud comme milieu, nous l'avons construit avec les leaders communautaires. Et parmi les leaders, nombreux même se sont fait vacciner. Ce n'est pas le lieu ni le moment de citer leurs noms. Mais le défi, c'est toujours d'améliorer. Et là, nous sommes en train d'améliorer et davantage. Il a parlé d'un élément extrêmement important ici. C'est vrai que c'est la première fois que l'épidémie à virus Ebola survient en zone swahilophone. Et ça, c'est une donne qui n'est pas négligeable et nous ne cessons de le dire et de rappeler à nos collègues que celui qui ne connaît pas parler swahili, il doit apprendre à parler swahili. Et les gros, nous avons recruté. Mais sinon, en gros, de tous les staffs que nous utilisons, plus de 70% sont les ressources locales. Il n'y a que les ressources pour lesquelles l'expertise est suffisamment pointue et que pour lesquelles nous n'avons pas de personnes localement ici. Et nous sommes allés même plus loin pour identifier certains collègues nandi qui sont à Kinshasa pour venir nous appuyer, qui sont à Goma pour venir nous appuyer pour que, et puis effectivement, nous avions cette donne-là. Nous avons des anthropologues, professeurs d'université avec nous ici, des Congolais, qui parlent swahili, qui nous ont aidés à démarrer très très rapidement nos interventions. L'élément le plus important et le plus important, c'est de se dire la situation, comme le collègue venait de le dire, des bénis est extrêmement instable. Et nous l'avons aussi expérimenté que Béni pourrait être, à notre avis, le milieu où les Congolais sont les plus connectés sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, passe tout, y compris les rumeurs. Tout le monde suit les réseaux sociaux ici, ça n'a rien à comparer avec les autres épisodes d'épidémie que nous avons eus. Et nous nous sommes aussi adaptés, nos communicateurs sont eux aussi dans les réseaux sociaux, moi y compris, pour essayer de rattraper.
Docteur Batté, qu'est-ce que vous donnez comme précision par rapport à l'aspect soulevé par Papi Kasereka concernant cette vaccination qu'il estime un peu sélective?
Non, j'y arrive. Pour les collègues, moi je le mets à défi s'il connaît un contact qui a été listé. Ça signifie que la personne était venue vers nous dire que moi j'ai été le contact de telle personne qui n'a pas été vaccinée. Moi je voudrais bien le savoir. Puisqu'effectivement, nous faisons une course contre la montre pour rattraper tout contact et les vacciner. C'est une information, nous la prenons comme cela. Et alors, pour revenir à la vaccination sélective, effectivement, cette vaccination, jusqu'à présent, elle reste sélective. Elle cible les personnels de santé, elle cible les contacts, comme vous venez de le dire, et les contacts des contacts. Jusqu'à ce que toutes les homologations autour de cette vaccination arrivent et que nous puissions avoir les moyens logistiques conséquents pour le faire. Et c'est là que nous voulons préciser que le collègue qui a parlé tantôt là, que c'est le gouvernement qui met d'énormes moyens, ce ne sont pas les partenaires, c'est la République qui met les moyens. Et les partenaires appuient la République dans cela. Dès qu'il y a des ambulances, je pense que le collègue Joachim n'a pas la bonne information. Les ambulances que nous avons, ce sont des ambulances médicalisées qui sont décontaminées après le transport de chaque malade. Chaque malade, j'insiste bien. Nous pourrions effectivement, nous sommes aussi en train d'apprendre qu'il faut bien communiquer et faire des démonstrations peut-être à la communauté pour voir combien nos ambulances ne peuvent pas et ne sont pas les lieux de contamination.
Merci docteur. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Papi Kasereka, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi dans la province du Lualaba.
Patrice Kangwa, depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Un état d'urgence devrait être déclaré au ministère de Santé pour finir définitivement avec cette maladie qui ravage sans pitié. Mais au regard de la situation sur le terrain, on a comme impression que le gouvernement congolais ne prend pas la question avec considération. On a vu le monde entier se mobiliser au Libéria et autres pays qui ont été touchés par ce virus, le contraire de ce que nous vivons actuellement dans notre pays. Cela trouve des réponses dans cet adage « Aide-toi le ciel fédéral ». Le monde allait se mobiliser si seulement au pays nos chers gouvernants avaient aussi une petite considération de nos compatriotes qui meurent sans une réelle assistance.
Papi Kasereka, comment réagissez-vous à cette réflexion de Sacha Sangwa de Kolwezi?
Écoutez, je tiens d'abord à les remercier beaucoup pour la question, mais je tiens à souligner que la question Ebola est complexe. À chaque fois que vous avez une malade, il faut suivre les contacts de ces malades-là. Parce que chaque personne qui tombe malade a probabilité, du point de vue de la projection, de contaminer même plus de 50 personnes. Et tous ces gens-là doivent être suivis. C'est comme ça que j'ai parlé ici du vaccin. Lorsque j'ai souligné la question du vaccin, il y a des gens qui passent des journées sous soleil. Je ne parle pas en là. Je suis suffisamment informé dans ce sens-là. Donc je parle de personnes contacts ici qui n'ont pas été vaccinées. Pas des... Je sais que le vaccin est sélectif, j'en suis conscient.
mais des gens qui ont été en contact avec les malades, qui passent des journées sous soleil, qui n'ont pas été vaccinés. Et c'est à ce niveau-là que la question Ebola est complexe et difficile à suivre. C'est comme ça que je vous dis que à chaque fois que les gens de la République font des pas, il y a d'autres qui ont déjà fait 10 pas. Et à ce niveau-là, c'est compliqué. Je ne pense pas non plus que le gouvernement congolais ne prend pas la question au sérieux. Mais j'ai l'impression que c'est une question apparemment qui nous dépasse. C'est plus compliqué. Surtout avec Beni.
Papi Kasereka.
Beni, on est en face d'une situation spécifique. Oui.
Papi Kasereka, mais si vous connaissez ces personnes contacts qui n'ont pas été vaccinées, docteur Batenjoloko demande par exemple que vous puissiez faire parvenir cette information à l'équipe de Riposte.
Ces gens-là sont enregistrés sur une liste des équipes de Riposte. Les équipes de l'OMS qui travaillent en collaboration avec Dr Batté. Je lui demande de poser cette question le matin dans les réunions-là. Ils ont toutes les listes là. Donc ce n'est pas un problème nouveau pour le docteur là, docteur Angelo. Il est censé connaître ça.
Alors, papy, vous qui êtes au sein même de la population, comment vous dites que la situation elle est complexe? Il y a des campagnes de sensibilisation qui ont été menées. Docteur Njoloko a même évoqué les cas de certains médecins swahilifones qui ont été recrutés pour renforcer l'équipe de Riposte sur place. Mais comment vous expliquez cette résistance, cette réticence de certaines personnes au sein de la population par rapport à Ebola, qui continue par exemple à penser que c'est des mauvais sorts, que c'est des maladies provoquées pour supprimer la population, par exemple?
Merci beaucoup pour la question. Je vous ai parlé ici que Beni, c'est une région spécifique. Les uns et les autres ont souligné la question, les gens sont politiquement très actifs. Les leaders ici, notamment certains élus, se sont clairement exprimés pour dire qu'il n'y a rien là-dedans, alors qu'ils n'ont aucune compétence. Et alors, ce leader-là donne des masses de réopé. Et dans cette perspective-là, lorsque l'équipe n'a riposté, passe-moi le terme, bon, j'ai parlé des erreurs, vous avez dit qu'il ne faut pas dire ça. Bon, très bien, moi, mon problème n'est pas des concepts, là. Je suis pragmatique. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, on est en train de vivre là. Parce qu'elle ne réagit pas sur tous les terrains, là. Or, Beni, c'est asymétrique, comme les autres ont dit. Il faut être sur tous les terrains et réagir au circuit. Quand vous êtes en retard de communication, les autres leaders-là, les élus d'ici de la région, ont dit clairement à la population qu'il n'y a pas de maladie là, on coupe les gens, les sexes, quand en fait on va les enterrer, il n'y a rien, et on va réagir après une semaine, alors que l'information circule sur les réseaux sociaux. Et ce qui fait que la situation est compliquée, et en plus, les gens ont développé la stratégie aujourd'hui qui consiste à cacher les malades, et à les fuir, à les faire transporter. Il y a des gens qui essaient de fuir la mort, ils quittent bien, ils vont mourir dans la serrette. Vous imaginez ça? Et avec le bref, il y a tous ces gens-là que la personne a été en contact avec, c'est des cas qu'il faut suivre. Donc il faut les identifier, après il faut les suivre. C'est ce qui rend la situation compliquée. Chaque malade, chaque mort donne des contacts et de rien nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec, nous sommes en train de vivre des situations complexes.
Alors, papy,
c'est ça, c'est qui rend la chose compliquée.
Papy Kasereka, quel est le niveau d'implication de la société, de la coordination de la société civile de Beni pour faciliter le plus possible le travail de l'équipe de Riposte?
Écoutez, aujourd'hui, la société civile est impliquée dans la question de gestion des alertes. Là. Il y a un petit projet qui a été conçu au niveau de la société civile de 15 jours. Et d'ailleurs, ça va expirer d'ici samedi ici. Que la société civile aide l'OMS à remonter les cas, en fait, pour des questions d'alerte. Pour que ça se passe le plus vite que possible. Parce que la société civile a ses représentants au sein de la communauté. Et c'est en fait ce que la société civile essaie de faire aujourd'hui. Et je sais qu'avec ces statistiques-là, les équipes de la Riposte ont du mal à gérer les cas. Il y en a quand même en quantité suffisante qui le font. Les choses échappent, mais pas tout, parce qu'il y a des gens qui sont sur place, qui remontent plus vite l'information. Voilà l'implication de la société civile.
Merci,
Papi. Et la petite contribution, en France, dans ce sens-là.
Merci, Papi Kasereka. Adela Robulokwes, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo.
Si, docteur, j'annonce de Butembo, base de Butembo, au nord de Kivu. La maladie à virus Ebola est venue au mauvais moment, dans un mauvais endroit, où la population est massacrée du jour au nuit, sans secours ni du gouvernement, ni de la MONUSCO. Alors la population n'arrive pas à comprendre comment on peut déployer pas de moyens pour lutter contre la maladie à virus Ebola,
alors qu'il y a un massacre qui vient de faire au moins 400 interventions, ni du gouvernement, ni de la communauté internationale. Donc la population là, commence à penser que peut-être cette arme de guerre, une arme biologique, qu'on a jetée dans la région pour exterminer la population. C'est pour cela que l'équipe de riposte a du mal à travailler parce qu'elle est juste en contact avec la population qui est traumatisée par la guerre, traumatisée par le massacre.
Voilà, Obulokwes, et vous, et Dr Baté, et Papi Kasereka, vous avez relevé ce dilemme entre l'insécurité la maladie à virus Ebola. Vous avez suivi Papi Kasereka affirmer que des leaders d'opinion ont transmis un message négatif à la population. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour en termes de solution par rapport à ça?
Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier la personne qui vient de parler tout à l'heure de Boutembo. Et justement, ce que venait de dire Papi Kasereka conforte le fait que les relais communautaires ne devaient pas être utilisés n'importe comment au début lorsque cette maladie s'est déclenchée. Parce que justement, au sein de ces relais communautaires, nous pouvons considérer qu'il y a deux catégories. Il y a les relais communautaires qu'on appelle des volontaires, c'est des personnes qui vraiment prennent en charge toutes les questions liées à la vie sociale. Mais il y a aussi des leaders d'opinion parmi ces relais. Et certains leaders d'opinion, l'ami Papi Kasereka l'a souligné, des députés, pour ne pas les citer, on ne va pas citer leur nom ici, en fait, ils ont dit que cette maladie est fabriquée quelque part par le gouvernement, ainsi de suite. Et l'ami qui vient de poser la question vient de le dire, n'est-ce pas? On utilise cette maladie comme étant une arme de guerre. Ben non, ça fait partie des rumeurs. Et lorsque ces rumeurs-là sont répandues par des personnes qui ont une certaine notoriété, un député, c'est quelqu'un qui a une notoriété. Ce député, par exemple, a été élu dans cette contrée.
Il a toute la confiance de la population.
Ah, donc toute la confiance de la population. Et vous savez que la confiance, c'est quelque chose qui se construit au cours des années. Et donc ceux qui viennent d'arriver n'ont pas le même degré de confiance que celui qu'ils ont vu naître, qu'ils ont élu eux-mêmes. Je vais en même temps allier cette réponse à l'ami qui a parlé, je crois, de Lubumbashi ou quoi, pour dire que on a l'impression que le monde entier ne se mobilise pas. Ben si, le monde entier est mobilisé. Le monde entier est mobilisé à travers qui? À travers les experts qui ont été déployés. Malheureusement, les experts qui ont été déployés, par exemple à Beni, posent problème pour la société civile, qui estime qu'on ne devait pas les déployer parce qu'il faut prendre d'abord les gens du milieu. Ben que non, en communication, c'est pas comme ça. Il faut d'abord amener ceux qui ont la maîtrise de la situation, ceux qui savent comment communiquer par rapport à Ebola, les amener sur terrain, c'est la première étape. Et petit à petit, intégrer les leaders communautaires ainsi que les communicateurs, ça veut dire les radios communautaires et tout le monde, et pour pouvoir vaincre cette maladie. Mais le problème, c'est qui faut-il intégrer? Si on avait intégré dès le départ tous ces gens qui ont fait les mauvaises rumeurs, on n'aurait même pas eu les petits résultats que ces gens-là ont récoltés sur le terrain. C'est parce que justement, malheureusement, le problème de la maladie, c'est quoi? C'est qu'elle tue. Elle tue chaque jour et on ne peut pas attendre. Elle n'attend pas. Alors que les stratégies, elles, ont besoin du temps pour pouvoir s'adapter à la situation des terrains. N'est-ce pas? La guerre dont on parle, c'est une province qui a beaucoup de problèmes d'insécurité. Et on dit le gouvernement est dépassé. Peut-être sur le plan militaire, mais sur le plan de la communication et de la lutte contre Ebola, on ne peut pas dire que le problème a été passé. Au contraire, tous les jours, les gens vont à Beni. Tous les jours, les gens vont dans ces provinces. Et voyez ce qui se passe à l'Irung avec la province de l'Ituri. La maladie est partie à cause des mouvements des populations. Les gens dont on parle, qui ont caché certains malades, se sont déplacés. On ne sait pas exactement qui s'est déplacé. Ce qui fait que cette maladie est allée dans une autre province. Mais tout de suite, on a appris que les équipes ont été déployées par le gouvernement et les partenaires pour pouvoir prendre en charge, par exemple, dans la province de l'Ituri. Et là, ce n'est pas aussi grave qu'à Beni. Mais à Beni, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le mouvement des grèves, décrété entre autres et appuyé par la société civile, dont parle monsieur Kasereka. Ben oui! Lorsque vous appuyez un mouvement de grève dans une région où le processus de sensibilisation a commencé, un processus veut dire étape par étape. Lorsque la phase 1 du processus a été décrétée pour la communication et qu'il y a une grève
sèche
illimitée qui intervient, ben il faut savoir que le processus va recommencer à zéro. Et ce processus aura créé déjà ce qu'on appelle de la résistance. Parce que les gens n'ont pas vu le résultat de ce qui a été fait, qui était qu'un processus, ils vont résister. Et donc la société civile de Beni est en train de contribuer à ce que cette maladie continue parce qu'ils appuient par exemple cette journée ville morte sèche, ce qui fait que le processus de communication qui a été enclenché, qui n'était qu'à la première ou à la deuxième étape,
est biaisé
et il faut recommencer à zéro, je dis bien à zéro.
Voilà, docteur Baté Njoloko, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Qu'est-ce que vous répondez à Papi Kasereka et à beaucoup d'autres auditeurs qui se demandent et qui affirment même qu'ils ont l'impression que cette épidémie a largement dépassé l'équipe de Riposte?
Je confirme que cette épidémie n'a pas du tout dépassé l'équipe de Riposte, sauf que, comme les collègues venaient de le dire, il y a un perpétuel recommencement du fait des facteurs extérieurs à la Riposte. Et c'est là que nous l'avons déjà dit une fois, et comme les collègues l'ont répété, il y a des leaders d'opinion qui nous ont mis dans une situation extrêmement difficile dans leurs déclarations. Et effectivement, l'histoire retiendra cela. Et à côté de cela, les journées villes mortes, toutes nos statistiques démontrent que toutes les journées villes mortes ont eu un impact significatif sur tous les piliers de la Riposte. Tous les piliers, sans exception. Et bon, on essaie de rattraper l'effet de ces conséquences-là. Alors, globalement, la planète entière s'est mobilisée. Il n'y a aucun expert de très haut niveau sur cette planète qui n'est pas passé par ici ou qui n'est pas ici. Il n'y en a pas. À moins qu'on fabrique ces experts-là. Et les experts, ça ne se fabrique pas.
Docteur Baté,
Docteur Baté,
il faut déjà conclure. Quel message vous pouvez adresser en ce moment à tous ces milliers d'auditeurs qui nous suivent à partir de Beni, de l'Itouri, dans toute cette région?
Ma conclusion partira du témoignage d'une dame devant le gouverneur de la province, son excellence Julien Paloukou, avec qui j'étais, et le gouverneur pose la question à cette dame que nous avons recrutée, qui travaille au centre de traitement ici à Beni. La personne, elle est là, elle est guérie. Et quand le gouverneur pose la question, madame, comment vous avez senti Ebola dans vous? Et la dame dira, monsieur le gouverneur, je préférais mourir que vivre. C'est tellement douloureux que moi j'estimais que Dieu ne devait que faire autre chose que me remettre dans la vie, mais m'appeler très vite. En fait, c'est pour dire qu'on ne blague pas avec l'Ebola.
Merci,
les gens
docteur.
Blague avec Ebola. Merci.
Merci, docteur Baté Njoloko. Papi Kasereka, en guise de conclusion, quel message vous, membre de la société civile de Beni, vous pouvez adresser à toute la population qui vous suit en ce moment à Beni?
Merci beaucoup. Mon message est simple. Ebola peut être compliqué, effectivement, mais ça peut être aussi simple si on s'implique tous. Les règles les plus élémentaires, à mon sens, pour stopper Ebola et la clé du succès, c'est qu'il faut suivre scrupuleusement tout ce que les médecins nous demandent de faire dans ce sens-là. Lavons nos mains, soyons sûrs qu'on ne manipule pas le cadrage, qu'on ne puisse pas aller d'une manière désordonnée dans le lieu mortuaire, qu'on ne puisse pas. En fait, les règles les plus élémentaires, à mon sens, c'est la clé du succès. Et qu'il est urgent que ceux qui sont spécialistes de la rumeur de Beni arrêtent un peu la rumeur, qu'on se concentre. La maladie, là, il n'y a pas la politique dedans. C'est une question sérieuse. Il faut qu'on agisse vite.
Merci Papi Kasereka. Au bout de quoi, il y a tous ces leaders d'opinion qui doivent à tout prix se rattraper. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en ce moment pour aider à la Riposte?
Pour aider à la Riposte, ce qu'ils doivent faire en ce moment, c'est qu'il y ait un bon message qui passe, pas par les mêmes leaders d'opinion qui ont déjà une mauvaise image de la population, mais que d'autres leaders d'opinion prennent le relais. Et je voudrais en ce moment-là signaler qu'il y a des groupes là-bas, n'est-ce pas, comme Abari Motomoto, groupe WhatsApp, c'est vrai, mais ces gens-là font un travail remarquable parce qu'ils suscitent le débat où on démontre que les rumeurs ne peuvent pas aider à aller de l'avant.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Maté, Mimi Kindou, Dona Madimba, Pelekipe Lamondo qui m'ont aidé à préparer à présenter cette émission. Moi c'est Alain Roum Mouchige. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.
Radio Kapi.
Kapi.
Flash Info, Billy Van Lutumba.
Kapi.